Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Et bien figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Et bien devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100€ sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100€ sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Biomécanique qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs, diminuer vos blessures et vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé. À chaque fois, des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada évidemment. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial où je reçois sur le podcast Corentin Peigne, qui ne travaille pas dans le milieu du sport, il n'est ni coach, ni entraîneur, ni préparateur physique. Il ne travaille pas non plus dans le milieu médical ou paramédical. En fait, son métier actuellement, il n'a pas réellement d'importance. En revanche, son parcours, il est plutôt intéressant et même très inspirant, et surtout pour ceux qui ont encore du mal à prendre leur corps et leur santé en main. Corentin, je l'ai rencontré à Montréal il y a 3 ans, il est arrivé au Québec avec un PVT. Exactement comme moi, et on va dire que c'est au détour d'un Miracle Morning que j'ai fait sa connaissance. Avant de venir au Canada, il a traversé des périodes qui étaient plutôt difficiles dans sa vie. Il est passé par de l'obésité, par de la dépression, du mal-être. Et moi, je l'ai connu à un moment de son existence où il a pris réellement sa vie en main. Il s'est mis à la pratique du sport, il s'est inscrit dans une salle de musculation, il s'est intéressé de beaucoup plus près à sa santé et de tous les outils qui existaient pour vraiment se sentir mieux. Autant physiquement que psychologiquement et même spirituellement. Il est reparti ensuite en France il y a environ 1 an.
On reste en contact depuis régulièrement via les réseaux et il y a quelques semaines, il vient en vacances à Montréal. On se revoit autour d'un café, on discute et moi je me rends compte qu'il a particulièrement progressé. Il a fait un véritable bond dans sa vie, que ce soit sur sa santé, sa vision du sport et toute sa conscience du corps. Je lui propose de passer dans le podcast pour partager son histoire très personnelle. Il accepte. Et c'est ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Alors au cours du podcast, on a discuté de pas mal de sujets, notamment tous les obstacles auxquels il a dû faire face en tant que débutant lorsqu'il a commencé la pratique du sport dans une salle de musculation. Comment il a fait pour gérer la surabondance d'informations, notamment sur le web, lorsqu'il voulait se renseigner sur des exercices ou des programmes. On a parlé également de l'histoire de sa dépression, comment il en est venu à faire presque une grosse bêtise. Tous les signes physiques et psychologiques qu'il ressentait à ce moment-là. Est-ce que la pratique du sport à ce moment-là aurait été bénéfique pour lui ou tout simplement n'était pas du tout envisageable ? Corentin va partager à tous ceux qui veulent en finir actuellement et qui ont des idées noires comme lui en a eu à l'époque, ses meilleurs conseils et une vraie réflexion par rapport à cet état pour essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. On va voir comment trouver son activité sportive. Est-ce qu'il faut persister pendant plusieurs semaines, même lorsqu'on ne prend pas de plaisir sur cette activité ? Ou au contraire, il faut privilégier des choses qui nous provoquent instantanément du plaisir à faire ? En quoi le sport et la santé sont liés radicalement et puis ont complètement transformé sa vie, ce qui l'a mené aujourd'hui à en être là, avec moi en tout cas, dans cet épisode. Si vous êtes intéressé par ce que je raconte et par le podcast biomécanique, je vous encourage à aller voir le premier lien qui est en description dans les notes de l'épisode. Il s'agit de la lettre biomécanique. Ce sont un petit peu mes emails privés. Vous vous inscrivez et à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, je vous envoie directement un email pour vous en informer. Mais également, j'écris un petit peu des choses, on va dire privées, que je dirais pas nécessairement sur le podcast ou sur une plateforme publique. N'hésitez pas à aller voir, l'inscription est gratuite. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Corentin Peigne et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Alors, toi, tu as un parcours un petit peu différent par rapport à mes invités. En tout cas, mes anciens invités du podcast, la majorité, ils ont tous plus ou moins une expérience professionnelle. Enfin, ils ont une activité professionnelle par rapport au sport, à la santé, ce qui n'est pas exactement ton cas. Et pour mettre un peu les auditeurs dans le contexte, j'aurais déjà expliqué, évidemment, dans l'introduction du podcast, qui tu étais, ce que tu as fait. Mais est-ce que tu pourrais, toi, comme tu n'es pas un professionnel là-dedans, on va dire, quelle est la première fois où tu es rentré dans une salle de sport, dans un gym, dans une salle de musculation, ta toute première séance ? Comment ça s'est passé pour toi ? C'était quoi tes repères ?
Alors déjà, bonjour Jérôme, merci de m'inviter sur ce podcast. En fait, j'en avais pas réellement. J'ai vraiment été au feeling. J'avais regardé un peu 2-3 vidéos sur YouTube et en voyant ce que les gens faisaient autour de moi, j'essayais de reproduire ça.
Et toi, t'as commencé, tu te sentais comment ? Quel était ton état mental lors de cette première séance ? C'était un essai ? C'était un renouveau ? T'avais déjà des objectifs définis ?
Ouais, j'avais vraiment déjà des objectifs définis. Des objectifs. C'était pas vraiment des objectifs, donc comme on l'entend, quantifiables, analysables dans le temps. C'était plus genre un challenge. Je m'étais plus vraiment donné un challenge. J'étais jamais allé dans une salle de muscu et comme tu l'as dit. Mais ouais, ça a été le jour où je me suis inscrit, je savais que de toute façon j'allais y passer toute mon année et puis encore aujourd'hui dedans.
Justement, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée du débutant. On y reviendra évidemment, mais si tu peux nous donner, il y a combien de temps à peu près cette première séance était il y a combien de temps ?
C'était exactement en décembre 2017.
Ok, donc à peu près 2 ans et 2, un peu moins de 2 ans et demi, ce qui n'est pas si vieux.
Voilà, c'est ça.
Ce qui n'est pas hier non plus, mais toi, à ce moment-là, ça a été quoi tes premières difficultés quand t'es rentrer dans la salle, que ça soit mental ou même que ça soit d'une manière logistique, à quoi tu t'es confronté comme obstacle ? Je pense, de toute façon, je vais m'y retrouver, hein, je veux dire, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un comme toi.
Alors, les premiers obstacles ont été déjà comment muscler et quoi muscler et par où commencer. Ça a été vraiment les 3 premières questions qui ont été un obstacle. Et après, comme tu l'as dit aussi, c'est vraiment le mental, ça. Après, j'étais déterminé à aller à la salle. Donc au début, c'était 6 à 7... Enfin, j'y allais quasi tous les jours. Après, j'ai compris que y aller tous les jours, c'était pas vraiment bon pour le corps. Donc, j'ai réduit à 4 séances par semaine. Et après, bah, c'est devenu une habitude, en fait. J'ai vraiment créé une routine autour de ça, où j'allais soit le matin, soit le midi, soit le soir. Très rarement le soir, parce que c'était vraiment pas une période que j'aimais. Mais après, c'est à peu près tout niveau logistique ou même mental. Je m'y suis vraiment pris. J'étais tellement déterminé que de toute façon, il y avait rien qui pouvait m'arrêter.
Quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà recherché des informations sur, par exemple, comment faire les mouvements, comment utiliser telle machine? Tu as demandé directement à un entraîneur là-bas ou tu es arrivé complètement vierge d'informations? Tu as un petit peu tâtonné les différents appareils?
Alors j'avais quand même regardé deux, trois tutos, deux, trois blogs sur la musculation. Après, j'y avais pas vraiment porté d'attention, en fait. Je voulais vraiment essayer. Je suis un peu comme ça. Moi, je teste beaucoup de choses, je fais des erreurs. Et c'est en apprenant de mes erreurs, en fait, qu'après, je commence à savoir quoi faire, comment le faire. Et après, en fonction de l'évolution, de mon évolution en musculation, là, j'ai eu besoin de personnes qui m'ont proposé des programmes pour justement, évoluer. Le corps, au bout d'un moment, s'était habitué à ce que je faisais. Donc, je voyais que je prenais plus de masse ou que ça faisait plus rien du tout, en fait.
Il y a un truc qui est intéressant quand on recherche des informations, enfin intéressant je sais pas, mais auquel est confronté la plupart des pratiquants à leur début, ce qui a été à peu près le cas de tout ce que j'ai reçu sur le podcast, de moi-même et de gens que je côtoie, qui commencent une activité sportive, c'est qu'ils vont chercher beaucoup d'informations. On le sait, il y a une surabondance sur le net, sur le web. J'en ai parlé plusieurs fois dans des épisodes précédents. Et comment toi, en tant que débutant, non professionnel, t'as géré cette surabondance d'informations avant peut-être d'aller voir quelqu'un, un entraîneur qui t'a donné une base d'entraînement, une base de programme? Toi, quand tu as fait tes propres recherches, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de contenu sur le sport et comment tu l'as géré?
Non, en fait, comme je te l'ai dit, j'y ai pas consacré énormément de temps. Donc en fait, j'ai plutôt pris trois sources. Juste trois sources. À mon sens, il n'y a pas besoin d'en prendre énormément, parce que comme tu l'as dit, s'il y a trop d'informations, après tu sais plus vraiment par où commencer. Donc j'étais déjà comme ça, enfin voilà, je voulais le minimum d'informations, juste la base pour pas me blesser. Et puis après, j'y ai testé au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'augmentais les poids, je diminuais en fonction de ma masse. Et c'est au bout de deux, trois mois de tâtonnement où là ça a commencé à aller. Mais après il y a c'est vraiment aussi le temps et la patience qui va permettre de vraiment commencer. C'est le processus qui va permettre d'avancer et puis de se muscler. Donc ouais, à mon sens, le mieux c'est d'éviter de prendre trop d'informations, ce que dans mon cas ce que j'ai fait, et de foncer directement. De toute façon, ça sert à rien d'avoir 100% des réponses, sinon t'avances jamais.
C'était quoi tes trois sources d'informations?
Ouais, je ne me rappelle plus de ça, c'était il y a 2 ans. Je sais que j'avais regardé 2-3 vidéos sur YouTube. Il y avait Thibaut Shape.
Thibaut In Shape, ouais.
Ouais, Thibaut In Shape.
Ok.
Après, les autres, je ne me souviens vraiment plus.
Ok, alors c'est intéressant justement de voir que Thibaut In Shape, c'est peut-être pas celui qui va prodiguer les meilleurs conseils en musculation, parce que maintenant il est à un niveau, tout le monde le connaît, Thibaut InShape, c'est le numéro 1 fitness en France, en francophonie je pense. Il a commencé à ses débuts par donner des conseils sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la motivation, enfin tout ce qui tourne autour de la musculation. Aujourd'hui beaucoup moins, parce qu'il est rendu à un niveau où il est beaucoup trop, enfin il est énormément populaire et il fait du contenu beaucoup plus mainstream si on peut dire. Et c'est intéressant de voir justement, tu parles de lui, c'est un des premiers que tu as peut-être découvert parce qu'il a une visibilité qui était énorme. Il y a, je pense, beaucoup qui ont découvert le fitness grâce à lui. J'ai pas un avis négatif à son sujet, c'est vrai qu'il a pu dire, il y en a qui l'ont reproché d'avoir sorti 2-3 conneries.
Après, tu vois, enfin, les conneries qui sortaient, moi je m'en foutais, je voulais juste avoir 2-3 bases d'informations, puis c'est tout. Enfin, je me suis pas étendu, comme je t'ai dit, sur le sujet, franchement. Après, j'y suis allé à tâtons, et puis quand je savais pas, j'allais demander à une personne qui avait utilisé la machine avant moi. Je trouve que c'est quand même mieux aussi le contact humain direct que de regarder trop de trucs sur Internet.
Ok. On y reviendra un petit peu plus tard sur le cœur de ton entraînement et de comment tu l'as ressenti. Mais avant ça, pour remettre dans un certain contexte, j'aimerais qu'on parle de la période avant que tu viennes à Montréal, au Canada. Il s'est trouvé que tu étais en France, que tu es arrivé au Québec en permis de travail ouvert. C'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est côtoyés. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce qu'était ta vie d'un point de vue sportif, on va dire, d'un point de vue d'une vision santé et sportive, avant d'arriver à Montréal, quelques années auparavant? Comment tu étais?
Alors, j'ai commencé à m'intéresser... depuis que je suis tout petit, je faisais un peu de sport, mais vite fait, c'était vraiment... je pense que c'était plus pour faire plaisir aux autres que vraiment faire du sport, c'est parce que ça me plaisait vraiment pas. C'est à mes 14 ans quand je...
Excuse-moi, mais pourquoi ça te plaisait pas? Je sais pas, dans la pratique sportive.
Je sais pas, j'avais pas réellement d'intérêt. À chaque fois que j'ai fait du foot, du judo, un peu de tir à l'arc, quand je le faisais, je m'y investissais à fond parce que voilà, c'est mon état d'esprit qui est comme ça, et puis quand je dis que je fais, je le fais à fond, sinon je le fais pas. Mais ça me, en soi, c'était pas trippant. C'était pas, ouais, ça me faisait pas forcément du bien ou pas de bien. En fait, j'étais un peu partagé entre les deux. Et c'est vraiment à mes 14 ans, quand je suis monté sur la balance et que j'ai vu que je faisais 98 kilos pour 1m40, je me disais que là, il y avait un gros, gros problème. Que si je continuais comme ça, j'allais vraiment avoir des gros problèmes de santé. Et c'est à partir de cette période, sur une période de 3 ans, on va dire, que j'ai perdu une trentaine de kilos. Et où j'ai commencé à m'intéresser au sport. Alors encore là, c'était vraiment vraiment minime. Je faisais des pompes, des abdos, mais il n'était pas question que j'aille dans une salle ou que je me réinscrive dans un club.
Est-ce que toi, tu avais la conscience que tu mettais ton corps en danger en ayant ces mensurations, ou c'était uniquement d'un point de vue regard des autres et d'un mal-être psychologique?
Bah, en fait, tout est un peu lié, en fait, la boulimie et puis être en surpoids, parce que j'étais même limite en obésité. Il y avait beaucoup, déjà je me cachais, je voulais qu'on me voie, donc c'est pour ça que je mangeais pour grossir. C'est vraiment à mes 14 ans où j'ai vraiment pris conscience que si je continuais comme ça, un, de la santé, ça allait pas le faire. Deux, ma confiance, elle était vraiment au plus bas. Trois, enfin... Ouais, j'avais que 14 ans, donc c'était encore le temps où je savais que j'allais grandir, que si je faisais un peu attention à ce que je faisais, à ce que je mangeais, ben ça allait, j'allais diminuer. Puis depuis, ben voilà, je pense que j'ai jamais repris le poids que j'ai perdu, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de dire que ouais, c'est vraiment la patience qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui.
Mais quand t'as commencé à faire tes pompes, tes abdos dans ta chambre, c'était quoi ton objectif numéro un? Est-ce que c'était de perdre du poids, d'avoir un meilleur physique, de te sentir mieux dans ta tête? Ou est-ce que c'était juste parce que peut-être ton médecin t'avait fait peur, qui t'avait dit que tu pourrais avoir des problèmes cardiovasculaires, par exemple, assez rapidement? T'étais motivé par quoi pour te mettre à faire ces exercices chez toi? La motivation numéro un, quoi.
Alors, le médecin m'avait jamais rien dit sur mon poids. Il m'avait jamais mis en garde ou fait de reproches dessus. La première des raisons, c'est parce que j'y allais pas tous les mois chez le médecin. La deuxième chose, qu'est-ce qui m'a motivé, j'étais parti d'un principe, c'est que si je faisais 50 pompes et 50 abdos par jour, il y aurait peut-être un résultat futur. C'est juste ça l'objectif. Et j'ai laissé faire et je faisais ça. J'ai fait ça pendant un an. Ensuite, j'ai réduit la dose parce que je voyais que je perdais plus de poids, mais je voulais maintenir les 10 kilos que j'avais perdus. L'année d'après, ça a refait la même chose, et l'année suivante, et c'est pour ça que ça a mis 3 ans pour perdre une trentaine de kilos.
Tu as modifié ton alimentation avec ça, ou c'était juste ces exercices-là qui t'ont fait perdre?
Ah non, alors j'étais parti aussi d'un autre constat, c'est que je me suis dit que si à chaque fois que je faisais un régime, à chaque fois ça marchait pas parce que j'étais pas convaincu. Donc je me suis dit, si je mangeais tout le temps exactement la même chose que ce que je mange, mais en réduisant progressivement les quantités, qu'est-ce qui se passerait? Donc j'ai essayé ça pendant 2-3 mois, et au final, il est vrai que au bout du troisième mois, je mangeais beaucoup moins qu'au début. Je mangeais tout le temps la même chose, mais beaucoup moins. Et c'est après, c'est vraiment quand... c'est en 2016 où j'ai pris conscience que que je pourrais plus manger de viande, j'arrivais plus à manger de la viande. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment aimer les légumes. Après, des légumes, j'en mange depuis que je suis tout petit. Mais c'était principalement des féculents. Avec de la viande.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre la demande d'un permis, d'un visa pour venir à Montréal, pour changer de vie, pour déménager?
Alors, en 2015-2016, il m'est arrivé un grave accident, comme tu as pu le savoir. Enfin, j'ai tenté de me suicider, j'ai fini à l'hôpital spécialisé, enfin, l'hôpital psychiatrique, où j'ai été suivi par des psys, des thérapeutes. Et il y a eu un gros changement dans ma vie à partir de ce moment-là qui m'a fait que oui, la vie, elle pouvait être courte et se terminer comme ça d'un claquement de doigts. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'avais toujours voulu voyager. Donc c'est là où j'ai entendu parler d'Alex Viséo, où j'ai regardé ses premières vidéos et ça m'a donné énormément envie de voyager. Et Montréal, j'en entends parler depuis que je suis tout petit, ma mère adorait ce pays. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter. Et j'ai rencontré des amis, enfin, je travaillais en usine et j'ai rencontré mes amis qui m'ont dit, ouais, nous, on fait un PVT, alors je connaissais pas du tout, pour Montréal. Je suis allé me renseigner, j'ai regardé. Je dis, bah, tiens, ça me coûte rien d'essayer, donc je l'ai tenté. Et, un mois après, j'avais la réponse comme quoi j'avais été admis dans le bassin et que je pouvais faire mes valises et partir vivre à Montréal.
À ce moment-là, donc, t'avais un vrai mal-être et, est-ce que c'était pour toi, une manière de fuir ce mal-être ou essayer peut-être de renaître d'une certaine manière ou de trouver un nouvel espoir?
Alors, je faisais un travail sur moi déjà depuis plus d'un an, donc il y avait déjà beaucoup de questions qui avaient été soulevées, et c'était plus un challenge envers moi-même. Je n'étais jamais parti loin de chez moi, j'étais toujours resté dans la région. Et là, ça a été vraiment du tout au tout. C'est je pars d'une ville où il y a 30 000 habitants pour passer à 2,5 millions à Montréal. Je pars à 6500 bornes, tout seul. À ce moment-là, j'étais avec mon ex-femme et on s'est séparés avant que je parte. Donc, il y avait beaucoup de facteurs challengeants. Mais en même temps, ouais, ça m'a totalement transformé. Ça a été l'une des meilleures épreuves de ma vie. Difficile, mais l'une des meilleures épreuves.
Alors peut-être, je ne sais pas si tu es à l'aise de partager ça sur le podcast, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'a amené, sans forcément rentrer dans les détails, si tu n'es pas à l'aise d'en discuter, qu'est-ce qui t'a amené dans cet état de dépression et si oui ou non il y a eu dépression en fait pour mener à une tentative de suicide? Comment ça en est arrivé? Parce que c'est pas des choses qui arrivent en deux, trois jours, deux, trois semaines, j'imagine. C'est peut-être un cumul. Est-ce qu'il y avait une vraie dépression?
Ouais, il y avait vraiment une vraie dépression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec une femme. Cette femme était un peu toxique. Bon, après, j'ai compris que je l'étais aussi avec elle. Mon père venait de choper un cancer à ce moment-là. Je venais de quitter mon travail. J'avais dû rendre mon chien parce que j'étais pas capable de m'en occuper à cause de la dépression. J'ai décidé de rentrer dans ma région où j'ai trouvé un nouveau travail et le travail en question c'était d'avoir les gens, c'était de la vente en porte à porte. Et ça m'a fait craquer, ça m'a fait dire non mais c'est pas possible, je peux pas faire du mal comme ça aux gens. Et ça faisait presque 6 mois que j'étais dans un état un peu entre les deux. Et ce jour-là où j'ai démissionné 3 jours après avoir commencé parce que je voyais que je faisais, enfin que c'était du, enfin c'était mal, on faisait pas des bonnes ventes, c'était pas de la vente loyale et c'était pas ce que je recherchais dans mes valeurs. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment comme une grosse merde. Je venais de tout quitter, j'avais tout rechangé, j'avais requitté mon ex-femme. Enfin, c'était mon père qui allait pas bien, mon père, enfin qui était limite à la mort. Et là, je quitte à nouveau mon travail. Je fais, mais putain, mais je suis vraiment qu'une grosse merde. Enfin, à quoi ça sert que je vive si c'est pour être dans cet état pathétique, en fait, en quelque sorte.
Je suis un petit peu curieux et j'espère que ça fera écho à des personnes qui, peut-être, se retrouvent dans cet état émotionnel à l'instant où ils écoutent l'épisode, le podcast, par exemple, ou qu'ils ont des proches qui sont dans un passage un petit peu compliqué. Comment tu juges, c'est difficile à exprimer, mais est-ce qu'au moment où tu décides de faire une tentative de suicide, là maintenant que t'en es sorti, tu en as peut-être un peu plus conscience, est-ce que tu penses que ce passage à l'acte, il est dû à une émotion sur le moment? comment, tu vois, s'il y a quelqu'un qui est un petit peu dans cet état-là en ce moment, qui est pas bien, il y a plein de choses qui va pas dans sa vie, il y a un cumul, il y a énormément de couches et de sous-couches qui se cumulent et qui commence à avoir des idées noires. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu passer à l'action? Est-ce que tu as eu un flot d'émotions négatives ou pas? Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que ça a été sur un coup de tête? Et maintenant que bon, on parle de ça donc plusieurs années après, est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner à cette personne-là de lui dire si tu as une émotion qui te pousse à vouloir faire une connerie, le fais pas, c'est qu'une émotion, ça va passer, etc. Tu vois, je sais pas si ma question est hyper claire entre essayer de comprendre et essayer de peut-être donner les clés de quelqu'un qui serait dans cette situation.
Ah, clairement, quand, dans cette situation-là, en fait, donc sur le chemin du retour, je me voyais sauter, en fait. J'avais vraiment déjà la vision de sauter de ce pont. Mais tu vois, c'était juste une vision. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dormi parce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire à ce moment-là. Je pense qu'il y avait aussi énormément de fatigue. Je dormais que 3 heures par nuit, donc je pense qu'il y avait aussi énormément de fatigue. Et quand mes parents sont rentrés, je leur ai demandé de l'aide, ils n'ont pas compris. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de partir sur ce pont parce que je voyais bien que j'étais un boulet pour les autres, en fait. Je me sentais comme un boulet. Et ce qui m'a sauvé, en fait, c'est la police qui m'a récupéré sur ce pont. Et aujourd'hui, avec du recul, je sais que je voulais pas, dans ma tête, oui, je voulais mourir parce que j'en avais marre, mais c'était plus un appel à l'aide. Et le conseil que je pourrais donner aux gens qui pourraient être dans cette situation à ce moment-là, c'est vraiment d'appeler à l'aide. Des fois, on n'est pas forcément capable tout seul de résoudre. On n'a pas forcément les questions. Et même si j'ai un gros problème avec le système médical, aujourd'hui, je prends plus aucun médicament. Parfois, ça nous fait du bien de justement parler à des gens, voir des psychologues, peut-être même juste un séjour à l'hôpital. Enfin, j'y suis resté que un mois. Bah, pendant ce mois-là, bah, j'ai vraiment pu souffler. Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour des personnes qui sont... C'était facile dans mon cas, j'avais 21 ans, donc j'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de vraie charge. Mais la vie est quand même plus importante que cet état de dépression. Et au final, ben, j'en suis la preuve vivante qu'on peut en passer. Après, c'est pas simple, mais c'est faisable.
C'est intéressant cet appel à l'aide. Je pense que beaucoup de tentatives de suicide à ce moment-là sont lidées par davantage un appel à l'aide qu'une véritable intention d'en finir. Mais si c'est essayer de se confier, si c'est essayer de poser des bonnes questions et d'en parler à quelqu'un, mais que on a très peu d'amis autour de soi, mais que dans sa famille on est plus ou moins incompris, comme j'imagine que, enfin pas incompris, mais que le dialogue il est difficile à établir sur ce genre de sujet, et qu'en plus on n'a pas nécessairement confiance au corps médical, comme toi tu l'as été, vers qui on pourrait se tourner, tu vois, à ce moment-là, parce que toi, c'est ce que tu conseilles, mais à l'époque, t'as peut-être pas trouvé un interlocuteur à qui parler de tout ça. Comment t'aurais fait autrement? Et peut-être que ça pourrait donner des idées à des personnes qui seraient dans cette situation. À qui s'adresser à ce moment-là?
Alors, il y a 3-4 ans de ça, il n'y avait pas autant de thérapeutes, de coachs qu'il y en a aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était vraiment les coachs, parce que ça m'a permis de prendre conscience de mon état actuel dans l'instant et d'avoir une vision claire sur mon futur, tout en réparant ce que dans le présent, ce que j'avais qui n'allait pas bien de mon passé. Après, oui, les psychologues, enfin, m'ont beaucoup aidé. Et comme je t'ai dit, alors au moment où je suis arrivé à l'hôpital, j'étais tellement dans le mal que de toute façon, je m'effondrais, je pleurais en même temps de dire les choses. Enfin, j'avais accumulé tellement de trucs d'un coup que la soupape elle a pété et ouais, elle a vraiment pété. Et puis là, j'étais livré à moi-même. Peut-être l'avantage que j'ai eu, c'est que comme j'ai été amené à l'hôpital par les flics, que j'avais aucun droit, on m'a coupé mes droits en fait. J'ai vu un psychologue et ils m'ont dit que j'étais un adulte invalide. En gros, j'ai été mis sous tutelle. Donc, j'avais plus mon mot à dire, en fait. Et, si quelqu'un est vraiment dans cette situation aussi aujourd'hui, ouais, il y a tellement de moyens grâce à Internet, grâce même notre médecin traitant. Des fois, notre médecin traitant peut nous prescrire ou nous envoyer vers des gens où ça reste totalement anonyme. Enfin, là, je parle pour la France. On a quand même des systèmes qui sont relativement complets au niveau de la santé. C'est pas comme au Canada où il faut justement payer la consultation.
Bon, petite question bête peut-être, mais pendant toute cette période de dépression, avant que tu décides d'aller sur le pont pour en finir, est-ce que tu pratiquais toujours une activité sportive? Est-ce que ou t'avais complètement laissé ça de côté? C'était plus du tout d'actualité?
Ah, je faisais plus du tout de sport à ce moment-là.
Et est-ce que tu penses, encore une fois, question bête, est-ce que tu penses que si t'avais continué à faire du sport, à essayer de te maintenir dans une activité, tu te serais senti mieux, t'aurais inversé la donne, ou alors c'était de toute façon pas envisageable?
Clairement, c'était pas envisageable. Je faisais un peu de marche parce que je promenais les chiens, mais j'avais tellement un discours négatif et noir qu'il n'y avait rien qui me permettait d'aller bien. Je vivais avec ma femme et même elle n'arrivait pas à me... Tu sais, quand t'es dans cette période-là, t'as l'impression mais d'être tellement un truc qui ne sert à rien que tu ne sais pas l'important, tu ne sais pas pourquoi tu continues. Après, c'est sûr que si on a quelqu'un à côté puis qui nous essaye de nous amener à faire du sport, ça aide. Tout seul, c'est vrai que c'est compliqué.
Tu penses que ça t'aurait aidé si tu avais eu un ami que tu avais forcé à pratiquer un sport avec lui?
Alors, dans cette situation, forcer n'est vraiment pas le... Franchement, on a essayé de me forcer et t'es encore plus dans le mal qu'autre chose. C'est vraiment être à l'écoute de l'autre, c'est vraiment l'accompagner dans ses difficultés. Les gens autour ne comprennent pas, mais c'est vraiment weird hein, comme sensation. Où t'es tellement fatigué que t'as tout coupé, émotionnellement t'es coupé, t'es triste, t'es en colère, t'as toutes les émotions qui se mélangent. Et je peux comprendre que ça peut être compliqué pour les personnes à côté parce qu'eux ils sont démunis face à ça. Mais c'est vraiment de les amener gentiment, d'être compréhensif, s'ils aiment être touchés, de les prendre dans les bras et de leur dire que voilà, ça va bien se passer, qu'ils sont là pour nous, en fait. Et je pense que c'est plus ces mots-là que j'aurais eu besoin à cette époque-là que de me pousser à faire du sport. Et peut-être que d'avoir eu si j'aurais eu ces mots-là, encore une fois, c'est de l'hypothèse, là, peut-être que ça m'aurait permis de m'aider plus, on va dire.
Ça aurait peut-être changé la donne à ce moment-là.
Voilà.
Je pense qu'il est bon de rappeler peut-être... Alors, je ne suis pas médecin, évidemment, je n'ai pas les compétences par rapport à ça, mais ce que je peux dire concernant la dépression, par exemple, c'est que c'est une maladie qui peut être donc diagnostiquée, qui peut être donnée, c'est vraiment une maladie, puisqu'il s'agit en fait du taux de sérotonine qui est un neurotransmetteur dans le cerveau, qui est plus bas que la normale, disons. Donc notamment certains médicaments antidépresseurs qui vont faire en sorte de réélever les niveaux de sérotonine dans le cerveau pour compenser donc cette perte. Surtout la plupart du temps, c'est des inhibiteurs de recapteurs de sérotonine, c'est-à-dire que ça va enlever, on va dire, certains récepteurs qui vont retirer la sérotonine, c'est-à-dire qu'elle va rester, lorsqu'elle est produite par le cerveau, elle va rester plus longtemps, on va dire, dans les neurones. Donc c'est pour dire... Tu vas me corriger ou alors apporter plus d'informations par rapport à ça. C'est pour dire que cette sensation de dépression vraiment diagnostiquée, la vraie dépression, c'est une maladie quoi. C'est pas imaginaire, je me sens pas bien, j'ai le bad ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui va être permanent, dû à un taux de neurotransmetteurs plus bas dans le cerveau. Est-ce que tu confirmes peut-être ? On n'est pas des spécialistes. Moi, je rappelle que je suis ostéopathe. Je ne suis pas médecin ni neurologue, ce qui n'est pas ton cas non plus. Mais bon, tu parles peut-être en connaissance de cause aussi. Si tu peux nous apporter quelques informations, si tu en as.
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça aussi qu'il est compliqué. Il est difficile dans cet état d'aller faire du sport parce que ton énergie, elle est vraiment plus bas. Alors comme tu l'as dit, ouais, je suis pas spécialiste. Les seules choses que j'ai lues là-dedans, c'est que pour éviter que le cerveau surchauffe, il y a une espèce d'inhibiteur derrière, au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, et ça se met à se bloquer. Et en fait, ça bloque toute émotion. Voilà, la seule chose que je peux rajouter vis-à-vis du scientifiquement de ce que j'ai pu en lire. Et c'est vrai que les antidépresseurs permettent de rééquilibrer ça.
Bon, j'invite chaque auditeur plus ou moins intéressé, curieux par rapport à ce phénomène à aller faire leur propre recherche, que ce soit sur Google, en prenant bien sûr des pincettes sur les choses qu'ils lisent, ou tout simplement en allant lire des livres par rapport à ça. Si également vous êtes dans une phase où vous vous sentez pas très bien, c'est vrai que le conseil basique qui est de se mettre au sport et ça ira mieux, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme ton expérience le relate, c'est que il y a un niveau de fatigue, il y a un niveau de d'insécurité, de malaise qui fait que se bouger et prendre la décision de se mettre en activité est quasiment impossible. Donc c'est pas en disant fais ça et ça ira mieux, c'est parce que faire ça n'est actuellement pas possible, quoi.
Ouais, c'est exactement
ça. Si j'ai bien compris jusque-là.
Ouais, c'est ça.
Et par rapport à ce niveau de fatigue, de mal-être, est-ce qu'il y a d'autres signes, toi, que tu as ressenti, et peut-être que tu as retrouvé chez d'autres personnes qui avaient eu ces dépressions, des signes vraiment physiques, comment ça pourrait se ressentir?
Ah, déjà, t'es complètement mou. Enfin, déjà, pouvoir se tirer de la chambre sur le canapé, du canapé à la chambre, c'est vrai que c'est vraiment déjà compliqué. T'as un faciès, pardon, totalement fermé, totalement négatif. T'as la flemme vraiment de tout. Même juste l'idée de sortir dehors, ça ne devient pas l'idée. Et c'est pour ça que c'est vraiment dangereux cette maladie, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vivent seuls et donc qui se retrouvent confrontés à ça tout seuls. Et moi, quand j'y étais en plein dedans, j'étais totalement dans le déni. Pour moi, c'était non. J'étais juste fatigué. Je voulais pas admettre que j'étais malade, entre guillemets. Je voulais pas l'admettre parce que pour moi, c'était pas. Je pouvais pas me rajouter une. En plus de tout ce que je subissais, une maladie supplémentaire. Ça m'aurait achevé.
Finalement, tu t'en sors, tu passes par un séjour à l'hôpital. Les choses reviennent un petit peu à la normale, si on peut dire que c'est la normalité. Tu décides de faire une demande, pour le visa à Montréal, enfin pour un PVT au Canada, que tu obtiens. Tu arrives à Montréal et là, c'est une nouvelle vie qui commence. Déjà, quand tu arrives sur le sol québécois ici, comment tu te sens mentalement? Est-ce que tu sens que tu as déjà bien récupéré? Tu es à peu près à... j'aime bien parler en termes de pourcentage, même si... c'est pas forcément approprié tout le temps, mais à combien de pourcentage de bonheur ou en tout cas de bien-être tu te sens lorsque tu mets les pieds pour la première fois à Montréal?
Alors, je suis vraiment partagé entre ces deux émotions. Il y a la première émotion qui est la peur, parce que je quitte tout, et la deuxième qui est la surexcitation, parce que je me retrouve dans un pays qui est immense, magnifique, où la vibe est super bien. Ouais, ça a été un moment extrêmement challengeant. Les trois premiers jours, elles ont été excellents. J'avais l'impression d'être en vacances. Après, le bout du troisième jour, où là, tu as tout qui redescend et puis que il faut commencer à te dire qu'est-ce que je fais maintenant. Et c'est cette question, qu'est-ce que je fais maintenant, qui a été vraiment un tournant dans ma vie. Enfin, surtout en arrivant, c'est parce qu'il fallait tout, faut tout reconstruire. Quand tu pars seul, tu l'as vécu. Faut trouver du monde, faut oser, faut sortir de sa zone de confort. Donc en fait, en arrivant à Montréal, je pensais que à l'époque j'avais tout compris, j'avais fait du coaching, j'avais été formé en coaching, je faisais du coaching intuitif, donc j'étais calé. Et plus j'avançais dans mon évolution, et en fait, plus je me rendais compte que non, en fait, j'étais qu'au début, j'avais genre mis 0,0001% dans la connaissance que j'avais apprise. Et tout au long de mon séjour à Montréal, ça a été vraiment très challengeant. Mais en même temps, ça m'a totalement transformé. Ça m'a permis aussi de changer ma vision fermée de français et d'ouvrir à qu'il y a autre chose, en fait. Il y a autre chose que la France et il y a d'autres choses qui peuvent être belles, en fait. Et ouais, ça m'a permis de redescendre vraiment sur Terre et de commencer à vraiment vouloir être moi, en fait.
Est-ce que c'est ici que tu as découvert le fitness pour la première fois?
Oui, tout à fait. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais pour moi, comme je te l'ai dit, avant d'arriver à Montréal, d'aller dans une salle de sport, je trouvais ça weird. Et en arrivant à Montréal, j'ai dit non, c'est mort. Cette année, je vais à la salle, je bouge le cul et j'y vais à fond. Donc oui, ça a été difficile parce que j'étais tout seul et j'ai commencé à rencontrer des gens au bout de 2-3 mois quand je t'ai rencontré... quand j'ai commencé à te rencontrer, on a commencé à plus parler de sport. Sinon, j'avais personne, pas de coach, pas de motive, de personne qui me motivait à aller à la salle. Donc, ça a été difficile, mais en même temps, Le fait de n'avoir personne, bah, ça m'a permis de me rendre compte que ouais, les forces, elles sont à l'intérieur de moi. Ce n'est pas les autres qui vont déterminer ce que je dois faire ou ne pas faire.
Mais pourquoi faire du fitness ? Enfin, du fitness, c'est un peu un mot.
Ouais, c'est un gros mot. Là, pour...
Ouais, non, mais c'est, les gens comprennent de quoi on parle de toute façon. Pourquoi s'inscrire dans une salle de sport ou en tout cas tenter de faire de la musculation comme activité sportive là, quand tu essayes de te remettre de bonnes habitudes, essayer d'avoir une bonne routine ? Pourquoi aller dans une salle de sport et pas faire un autre sport ? Pourquoi pas du tennis ? Pourquoi pas, du rugby, du hockey, hein ? Je dis n'importe quoi, mais pourquoi c'est celui-là que tu as choisi en fait ?
Parce qu'en fait, je venais d'arriver à Montréal et je suis arrivé en novembre, fin octobre, ouais, le 1er novembre, je suis arrivé à Montréal.
Donc, ce que tu vas dire, je me doute.
je me suis dit, comme il allait faire moins 40, que le tennis, le rugby et puis que le foot, ça allait être un peu compliqué de faire ça à l'extérieur. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la salle de sport ? Là, je pourrais courir, je pourrais faire du vélo et je pourrais muscler avec des machines. Je me suis dit, tiens, ça pourrait... J'ai jamais fait ça de tous les sports que j'aurais voulu essayer. Pourquoi pas essayer la musculation ? Et c'est pour ça que je suis rentré pour la première fois dans une salle de sport.
C'est donc surtout un concours de circonstances, parce que tu serais arrivé en juin ou en juillet. C'est pas dit que tu aurais commencé à te muscler ou tu penses quand même que tu en serais venu là de toute
manière. Oui, dans tous les cas, j'en serais revenu à la salle de sport, mais j'aurais peut-être fait d'autres sports en même temps. Je sais pas quoi. Après, l'avantage de Montréal, c'est que c'est tellement grand que tu marches déjà beaucoup et j'adorais marcher. Donc, je marchais et en plus, j'allais à la salle. Donc j'avais une double activité en quelque sorte.
Bon, question moi qui me taraude, est-ce que tu as accroché directement ? Comme une activité que tu as aimée dès le premier jour, ou alors est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps avant de t'y faire, avant de t'habituer, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, tu sais, comme le fitness, la musculation devient de plus en plus connu et prépondérant, et presque, si tu vas sur les réseaux sociaux, un petit peu dans ce milieu-là, tu as presque la sensation que tu es obligé d'aller en salle, que c'est le sport, que si tu fais pas ça, t'es pas hype, tu vois, le truc de la mode. Et donc, il y a plein de gens qui sont pas faits pour ce sport parce que ça leur correspond pas et parce que chacun est différent de toute façon, mais qui se forcent et en fait, ça prend jamais. Et peut-être c'est difficile parce que des fois, il faut aussi attendre quelques semaines pour s'habituer, puis prendre goût et finalement devenir accro. Alors, c'est pas facile entre trouver le bon moment. Est-ce que je dois attendre un petit peu pour aimer, pour m'y habituer, ou alors est-ce que dès le début, tu peux considérer que c'est pas fait pour toi ? Ça, c'est une question qui est, je pense, difficile à répondre. Je vais pas nécessairement te la poser, mais juste toi, pour ton ressenti, est-ce que tu as accroché direct, par exemple, si on parle uniquement de ton expérience ?
Non, pas du tout. Ça a été vraiment dur les premières semaines. La première raison, j'étais encore à ce moment-là, j'étais beaucoup accroché aux résultats. Et je savais déjà dans ma tête que j'allais pas avoir des abdos au bout de la troisième semaine. Et donc, il m'a fallu bien au moins un ou deux mois pour vraiment... C'était vraiment un challenge d'y aller. Mais en même temps, voilà, on peut pas répondre à un problème au même niveau qu'on l'a créé. C'est Einstein qui disait ça. Et ça a été, ça m'a permis de me dépasser, en fait. Vraiment. Mais j'ai commencé à vraiment avoir des résultats quand je t'ai rencontré j'ai commencé à te demander, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats. Mais entre la période où j'ai commencé et la période où je t'ai rencontré, il s'est passé 3-4 mois. Donc oui, pendant 3-4 mois, t'as pas grand-chose qui se passe. Mais en fait, c'est un peu l'histoire du bambou. La première année, il y a une sorte de bambou. Il va rien sortir. La deuxième année, c'est pareil. La troisième année, c'est pareil. Et au bout de la cinquième année, il y a une petite tige qui pousse. Et dans l'année, il prend 12 mètres. Et en fait, pour moi, la musculation, c'est ça. C'est les 4 premiers mois, t'apprends une routine. C'est tout ce que tu fais. Tu prends pas de muscle, t'apprends une routine.
Bon, je rejoins cette métaphore qui est plutôt intéressante dans le process, peut-être de faciliter que ça devienne de plus en plus facile, qu'il y a de moins en moins de friction à la mise en place des habitudes, ou en tout cas le fait d'aller au sport, comme ce bambou là, au début c'est très difficile de mettre en place l'habitude, le quotidien, et puis ça devient de plus en plus facile, et puis passer plusieurs années, ça devient presque une facilité, c'est de pas y aller qui devient difficile. Je mettrais juste un petit bémol parce que je suis entièrement d'accord, mais pour peut-être pas qu'il y ait de confusion. En termes de progrès, de performance et peut-être de progrès musculaire et de résultats, on va avoir peut-être les phénomènes inverses, c'est-à-dire que t'as plus de chances, enfin en tout cas, les progrès sont beaucoup plus rapides au début, dans les premières années qu'à la fin. Je veux dire, c'est quelque chose qui est connu, même dans n'importe quel sport, la marge de progression. En une année, tu vas prendre, je sais pas moi, tu vas prendre entre 5 et 10 kilos de muscle, admettons, ça dépend des gens. Alors qu'à partir de la 4e, 5e année, tu vas jamais prendre autant. Tu vas prendre quelques centaines de grammes au mieux si tu t'entraînes bien. C'est juste la petite note que je voulais rajouter. Et pour revenir sur ce phénomène, toi, où pendant les 3 premiers mois, tu avais du mal, c'est quoi qui te gênait? Qu'est-ce qui ne te plaisait pas exactement sur le moment? Est-ce que c'était difficile de faire le mouvement? Est-ce que tu voyais ça comme une espèce de... Il y avait une douleur? C'était quoi concrètement ce que tu n'aimais pas, en fait, quand tu t'entraînais?
En fait, je pense que c'était beaucoup mon ego qui prenait le dessus, parce que c'était quelque chose que je faisais pas, tu vois, d'avoir une routine physique. Surtout que mon programme, au tout début, il était... Enfin, dire simple, mais... C'était, je faisais 15 minutes de tapis, 15 minutes de vélo, et après, j'allais m'entraîner. J'allais soit faire le haut du corps, soit le bas du corps. Et c'était comme ça au début. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça. Et c'est comme ça que ça commençait à me plaire au bout de 2-3 mois. Mais après, ouais, c'était quand même relativement challengeant. Alors oui, je pense que j'ai quand même pris du muscle. Mais après, comme tu disais, au bout de 5 ans, le but c'est plus d'y maintenir que de continuer à grossir, enfin à gonfler en muscle. Puis moi, mon but c'était pas de faire du, c'était pas de ressembler à Schwarzy, c'était vraiment voilà, de me sentir mieux dans mon corps, avoir une meilleure estime de moi-même, et puis voilà, et de préserver ma santé.
Et hormis peut-être les changements physiques que t'as pu apercevoir sur cette première année là de pratique, mentalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Juste si on enlève complètement le côté performance et amélioration physique et visuelle et esthétique.
Déjà, j'étais à Montréal, donc forcément déjà j'étais dans un bien-être bien, on va dire qu'on peut pas rêver mieux. Deuxièmement, ouais, ça me permettait, j'étais beaucoup moins stressé, ça m'a permis de réduire énormément mon stress. Ça m'a permis de réduire ma consommation de cigarettes aussi, parce qu'à l'époque je fumais. Et ouais, enfin, j'ai jamais été aussi bien qu'en faisant du sport, paradoxalement, que de m'en faire.
Est-ce que tu as peut-être des exemples, par exemple, la conséquence que ça a pu avoir sur ton travail, ton sommeil? Je sais pas si c'est des choses que tu as remarquées en termes de bénéfices.
Bah, au travail, j'avais plus de problème de dos. Donc, ce qui pour moi était vraiment quelque chose d'énorme, parce que j'ai toujours eu mal au dos et je comprenais pas la cause. En fait, quand j'ai commencé à faire du sport, à commencer à muscler, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais zéro muscle dans le dos. Et quand j'ai commencé à muscler mon dos, j'avais plus de problème de dos. Donc, ça a été déjà un gros point positif. Puis au niveau du sommeil, c'est vrai que tu dors beaucoup mieux quand tu fais du sport, ton corps il est oxygéné, tu dors beaucoup mieux. Il n'y a pas photo, ça c'est clair. Puis dans mes relations sociales, ça m'a permis d'être beaucoup plus persévérant, beaucoup plus à l'écoute aussi de moi-même. Parce que du coup, je savais, quand mon corps me faisait mal, je pouvais déterminer de quoi ça venait, de tout ça. Donc c'est vrai que c'est aussi important, ça permet un retour à soi-même.
Bon, si on fait une petite machine avant jusqu'à aujourd'hui, donc là tu es revenu en France, est-ce que tu continues à aller au gym, en salle de sport, pour nos amis français, est-ce que tu continues à pratiquer la musculation, à t'entraîner, à faire un autre sport par exemple, et qu'est-ce que ça continue à t'apporter aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, donc là, à l'instant T où on enregistre le podcast, non, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de sport. J'avais besoin d'une pause, ça fait 2 ans, enfin j'en ai fait pendant 2 ans à fond. Presque entre 6 et 8 heures par semaine, je m'entraînais pour un triathlon, donc c'était assez intense. Donc là, ça fait 3 mois que je suis en pause, là, je suis en vacances présentement à Montréal, et à partir de mon retour en France, là je vais me réinscrire dans une salle, et ça c'est vraiment l'objectif, parce que je sens que j'en ai besoin, et je reprépare un autre triathlon fin juillet, et un semi-marathon en octobre. Donc il faut que je retourne à la salle pour pouvoir m'entraîner.
Ok, mais est-ce que tu vas adapter justement cet entraînement, j'imagine, à la salle de sport par rapport au triathlon? Parce que, ou est-ce que tu as peut-être pas peur qu'en faisant, je sais pas quel va être ton programme, mais en faisant de la musculation, ça risque d'empiéter peut-être ta préparation pour le triathlon, parce que c'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes filières énergétiques. T'as une idée de comment tu veux préparer ça?
Alors j'y vais, en fait, je vais retourner à la salle surtout pour faire du cardio, beaucoup de cardio. Mon objectif, enfin, quand tu fais dans un triathlon ou un semi-marathon, l'important c'est ton cardio. Et bah, après, bah, toujours continuer la base, donc, c'est-à-dire faire remuscler le haut et puis remuscler le bas, parce qu'en 3 mois tu perds énormément. Il faut longtemps pour pouvoir se sculpter, mais il faut pas longtemps pour perdre tout ce que tu as fait. Donc, non, c'est vrai que si j'ai un conseil à donner, en fait, c'est vraiment, il faut vraiment pas arrêter. Il faut vraiment pas lâcher. Si ton corps, tu le sens et puis t'as besoin d'une semaine de repos, c'est correct, mais il faut vraiment y retourner après. Ouais, là, pour moi, mon gros problème, c'est que c'est pour moi hyper dur d'y retourner. Je sais que c'est important, je sais que c'est bénéfique, mais tu y prends tellement goût à pas y aller. En fait, c'est ton cerveau. Enfin, il faut vraiment aller à l'encontre de ton cerveau et c'est ça qui est le plus compliqué, en fait, je pense, pour quand tu fais du sport.
Nul doute que tous les sportifs qui vont en salle ou qui font n'importe quelle activité, je sais pas si c'est spécifique à la musculation ou à l'entraînement en salle de sport, mais effectivement, on est tous d'accord, on l'a expérimenté, il suffit de s'arrêter quelques jours. Plus longtemps tu t'arrêtes, plus c'est difficile de reprendre.
Parce qu'on sait que le sport, est, en fait, tu as le résultat que si tu y mets un effort. Et le corps, il n'aime pas ça, enfin, il n'aime pas souffrir, donc forcément... pour lui, c'est pas compréhensible la musculation. Et pourtant, c'est tellement bénéfique pour tout. Sans, comme j'ai encore une fois, sans vouloir devenir Schwarzy, mais la musculation est très bénéfique déjà pour ta propre estime et confiance, et puis ton bien-être dans ton corps. Enfin, ça nettoie toutes les toxines, encore plus avec tout ce qui se passe actuellement.
Comment a été ta progression depuis la première fois que tu as mis les pieds dans la salle de sport à Montréal, donc, si on pense à aujourd'hui, où c'est que tu penses avoir le plus progressé?
Alors si je me rappelle bien, tous les 4 mois, enfin, non, tous les 3 mois, ce que je faisais, je voyais bien que ça ne faisait plus rien. C'était devenu obsolète, le corps s'y était habitué. Et donc, c'était tout le temps dans ces 2 semaines suivantes où je changeais mon programme, où là, je voyais qu'il y avait une nouvelle progression, parce que le corps, du coup, je musclais d'autres muscles, et du coup, ces muscles qui n'avaient pas été travaillés au début, bah, ça permettait de justement les renforcer, et donc ça permettait de me prendre de la masse. Et donc, c'était comme ça tous les 3 mois, en fait. Au bout de 3 mois, j'arrivais plus à faire le programme que je m'étais fixé, donc je le changeais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait maintenir, c'était de voir justement que bah, tous 90 jours, ça devient une habitude, une routine, et que si tu continues dans cette routine, au final, tu progresses plus, parce que c'est facile, ça devient facile. Et la musculation, pour moi, si c'est facile, c'est que tu ne travailles pas rien.
Ouais, bah comme dans n'importe quelle activité.
Oui,
c'est sûr, c'est sûr. Il faut savoir... je renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir distinguer la facilité du processus avec la difficulté de l'action. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais il faut arriver au fait que ça devient facile d'aller en salle de sport.
Mais l'exercice reste toujours un poids à travailler. Non, mais c'est tout à fait normal. Enfin, je pense que...
C'est ça, ouais. Et après, pas l'inverse, si c'est possible. Voilà, pas que ça soit difficile d'y aller, et puis une fois qu'on est là-bas, prendre des haltères de 2 kilos, faire 2-3 mouvements, et puis s'en aller.
Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait beaucoup arrêter les gens. C'est parce que quand ça commence à devenir facile, t'as plus d'intérêt, en fait. Tu te dis, mais merde, en fait, je viens là juste par habitude, en fait. Et du coup, comme on n'aime pas... on est des êtres d'habitude, mais on n'aime pas la routine. Donc c'est un peu paradoxal, parce que enfin, c'est un peu la même chose. Et je pense que ouais, les nouvelles personnes qui se retrouvent à aller en salle de sport, le mieux c'est que tous les 3 mois ils changent de programme, sans forcément pousser trop loin la réflexion sur le programme, mais juste de changer les exercices, les faire dans un ordre différent, ça chamboule totalement le cerveau et pour lui il continue à travailler.
Je conseillerais effectivement de se fixer peut-être des objectifs régulièrement. Je ne suis pas un gros partisan de changer de programme tous les 3 mois. Je pense qu'il est tout de même... après, ça, c'est chacun.
Voilà, c'est ce qui était bon pour moi, comment moi je vois les choses vis-à-vis de mon parcours.
Non, mais de toute façon, chacun va tester, va faire sa propre idée. Si on peut rester un peu large, sans rentrer trop dans les détails d'un programme ou d'un entraînement, se fixer des objectifs, avoir toujours une espèce de challenge, que ça soit à chaque séance ou que ça soit par mois ou tous les 3 mois, c'est peut-être une excellente façon de se maintenir dans son activité, d'y trouver toujours une raison, une motivation aussi. Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que se déplacer régulièrement, peut-être 4 fois par semaine dans une salle de sport ou à son activité, peu importe ce qu'on fait, si c'est toujours faire la même chose, que ça ne devienne plus trop motivant, challengeant, à un moment donné, on perd l'envie d'y aller. Alors que se déplacer, aller au sport en sachant exactement ce qu'on doit faire, pourquoi on le fait, et qu'il y a un vrai, il y a un vrai challenge de se dire, je dois faire ça aujourd'hui, je dois y arriver, c'est un petit peu plus dur, et puis on y arrive, et puis après il y a la boucle sans fin où à chaque fois qu'on y va, on sait qu'on va peut-être dépasser un objectif, et c'est un petit peu la carotte permanente en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec cette idée-là.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ce que je peux aussi recommander, c'est que à tous les mois, se prendre, soit demander à quelqu'un, soit se prendre en photo. Au moins, ça permet de voir, d'avoir un visuel sur l'évolution. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivé aussi au début. C'est vraiment cette évolution-là. Alors, moi, je le faisais pas tous les mois parce que j'étais un peu feignant. Puis j'avais peur du miroir. J'aimais pas me regarder dedans. Petit à petit, j'ai commencé à m'y faire. Grâce, paradoxalement, en allant à la salle, étant donné qu'il y a souvent quand même des miroirs dans une salle. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a aidé aussi à apprécier de me regarder.
Non, mais ça, c'est une bonne idée de se prendre en photo, surtout au début où effectivement il y a beaucoup de friction à y aller, que c'est difficile. Ça peut être une façon de se rendre compte des résultats. Et des fois, c'est comme un mini starter de pousser de motivation et de se dire tout ce que j'ai fait, ça a servi. Et on enclenche sur vraiment le trigger positif en fait, du sport. Et ouais, ça peut être un bon starter pour commencer à aimer et à apprécier l'activité, peut-être. C'est ce qui est recommandé beaucoup, hein, de se prendre en photo, de toute façon, pour voir les évolutions. Est-ce que toi, tu as déjà eu des blessures, hein, par exemple ?
Ouais. Ça m'arrive. Des blessures graves, parce que, comme je t'ai dit, j'ai une très bonne compréhension de mon corps. Mais ouais, je me suis déjà bloqué le dos 2-3 fois et ça fait très très mal. Après, l'avantage qu'on avait à Montréal, dans la salle où j'étais, c'est qu'il y avait des machines de massage. Donc à chaque fois que je me bloquais le dos, j'avais la possibilité de me faire masser avec mon abonnement pour pouvoir enlever ces blocages.
Ce qui te relâchait un petit peu sur le moment, à la limite, ça donnait un petit effet antalgique.
Ah non, ça me débloquait vraiment le dos. Par mon parcours en fait de formation, comme j'ai beaucoup suivi de coaching, de thérapeute et tout ça, ça m'a permis vraiment de comprendre que le corps pouvait se débloquer tout seul, on peut vraiment le soigner tout seul. Et la machine m'aidait vraiment donc à débloquer le muscle en fonction de ma respiration.
Ok, parce que c'était sur quel type d'exercice que tu te faisais mal ?
La plupart du temps, c'était quand je faisais le dos, quand je commençais à aller sur les squats. Comme j'avais aucun muscle, les soulevés de terre, pardon. Ouais, ça doit être ça, je crois.
Ouais,
quand tu soulèves la barre et puis que...
Tu devais peut-être avoir un petit peu de faiblesse sur les muscles de gainage, on va dire, la ceinture abdominale, notamment les érecteurs du rachis, le carré des lombes, pour ceux qui sont adeptes de l'anatomie, qui peut-être étaient un peu faibles et se contracturaient un peu trop fort sur des exercices de base comme ça, qui demandent beaucoup de gainage, et peut-être que justement, après les exercices, t'avais des douleurs un peu de contracture, et le fait d'avoir ces sièges massants, te les relâcher, te faisait du bien.
Ouais, ça doit être ça. Bah après, du coup, comme je te disais, le lendemain ou le surlendemain, j'avais pas de problème, j'avais pas de courbature. Les toutes premières séances, ouais, j'avais énormément de courbatures. Après, ça devient gérable.
C'est intéressant parce que tu parlais justement du corps, de le fait de s'auto-soigner. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les thérapies, j'ai envie de dire, comme l'ostéopathie, comme même la physio, la kiné. Il y a quand même même d'autres pratiques que je connais moins bien, évidemment, d'autres thérapies, où le corps, en fait, va être capable de s'auto-soigner. Ce que le thérapeute va apporter, c'est une amélioration peut-être de l'équilibre ou aider, améliorer la capacité du corps à pouvoir s'auto-guérir. Bon, c'est dans un des principes de l'ostéopathie, j'aurai le temps d'y revenir dans de futurs épisodes avec des ostéopathes pour qu'on en parle un petit peu plus précisément. Toi, ça t'a amené, ou en tout cas tu l'étais déjà, à t'intéresser à la santé du corps, aux thérapies. Je sais que tu étais beaucoup intéressé par tout ce qui était énergie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Alors oui, j'ai toujours été fasciné par le corps humain, et encore plus après la musculation, parce que du coup, il y avait plein de parties de moi que je découvrais. Et surtout dans l'énergie. Alors dans l'énergie, il faut bien s'entendre que le corps humain, avant d'être de la matière, de la peau, c'est de l'énergie. Après voilà, on peut y croire ou ne pas y croire, mais le corps humain à l'état physique, c'est exactement pareil que l'eau à l'état solide. Voilà comment je vois les choses. Et pour moi, on est tous connectés. La terre émet de l'énergie, le soleil c'est de l'énergie, enfin tout est énergie. Donc par conséquent, si tout est énergie, les douleurs peuvent être transformées en énergie, donc en bien-être. Et quand j'ai commencé à étudier le Reiki, à étudier, même en t'écoutant, toi, sur l'ostéopathie, où des fois je te posais des questions, tout se revient pour dire que, en fait, nous, thérapeutes, on ne soigne pas le corps. En fait, on va, comme tu l'as dit, on va aider, rééduquer le corps à se soigner tout seul. Et on a tous cette capacité en nous. Après, c'est à nous de le développer comme le muscle du sport.
Est-ce que ça, aujourd'hui, cette conscience, ça te sert dans tes activités sportives, par exemple, peut-être pour de la performance ou de la meilleure récupération ?
Dans le sport, oui, ça me permet, déjà, oui, c'est vrai, comme tu le dis, j'ai beaucoup moins de douleurs physiques qu'à l'époque. Parce que comme tu as une meilleure connaissance, tu sais que la douleur n'est pas réellement réelle. Enfin, elle est réelle, elle est réelle, mais tu peux t'en dissocier. C'est vrai que ça aide beaucoup. Après, où ça m'aide beaucoup, c'est surtout sur mon système immunitaire. Mon système immunitaire est du coup très fort. Et aujourd'hui, donc on est en 2020, ça fait 3 ans que j'ai pas pris de médicaments. Okay. Donc ça prouve que justement le corps peut vraiment s'auto-guérir et que je ne suis pas contre la médication. Hein. J'en ai eu besoin à certains moments. Je recommande la médication, mais pour par exemple une grippe. La médication, elle n'est pas forcément obligatoire. Et si justement on aurait poussé le corps un peu comme les légumes, des fois, à l'époque, les légumes, ils poussaient sans forcément d'engrais et ils chopaient des maladies, mais la variété de l'année suivante était beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante à la maladie. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, ce phénomène-là de la nature, et de l'intégrer dans mon corps. Et depuis que je l'intègre, c'est vrai que je suis plus malade, je ne connais plus en fait.
Est-ce que tu continues que tu vois des thérapeutes pour prendre soin de ta santé? Est-ce que tu vois des naturaux, peut-être de l'ostéo? Tu m'as dit que tu prends pas de médicaments, mais est-ce que quand même des fois tu fais des analyses sanguines, tu vas voir ton médecin? C'est quoi ton parcours un peu santé, des actions de tous les jours?
Comme je fais de la compétition, je suis obligé d'aller voir mon médecin. Donc oui, dans quand même tous les 6 mois, je vais quand même faire une prise de sang. En plus, je suis donneur de sang, donc pour l'action que je donne, il faut quand même que mon sang soit de bonne qualité. Après, en soi, les résultats sont toujours très positifs. Comme je dis, je mange pas de viande, je fume pas, je bois très peu d'alcool et je fais du sport. Donc tous les facteurs pour être en bonne santé. Et en fait, la santé, c'est quand même primordial sur tout ce qu'on a à faire. Si on n'est pas en bonne santé, il est quand même difficile de se mettre en action. Donc, c'est primordial d'en prendre soin, en fait. Après, qui je vois? Je vois plus des coachs, enfin, je vois un coach mental et une conseillère en finance. Thérapeute, j'en vois très peu, ou si j'en ai vraiment besoin. Après, avec la nouvelle activité que je voudrais lancer en massage tantrique, forcément, je travaille avec des gens dans l'énergie.
Ok, ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un futur épisode.
Avec grand plaisir.
Est-ce que tu pourrais nous dire déjà 2 mots pour susciter une petite curiosité de cette nouvelle activité que tu as envie de lancer?
C'est du massage où on va utiliser l'énergie sacrée pour pouvoir permuter le corps de la personne, lui nettoyer en fait des blessures qu'il a pu avoir dans son passé.
D'accord.
Donc encore une fois, on n'est pas des psychologues, des médecins, on fait juste des massages, mais on touche des points énergétiques sensibles qui permettent justement de faire réveiller des consciences.
Pour finir, j'aime bien te poser 3 petites questions de fin. La première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de commencer le sport, peut-être commencer à pratiquer?
Peu importe la qualité.
Ouais, vas-y.
Qu'il essaye, tout simplement. S'il a une idée, qu'il essaye. Il voit, il teste pendant un mois, il verra au bout d'un mois. Déjà, si au bout de 3 semaines, il a déjà plus envie d'y aller, c'est que c'est pas fait pour lui. Mais après, le mieux, c'est quand même vraiment de pousser la chose au maximum. Un mois, c'est quand même compliqué de... Mais au bout de 21 jours, tu sais si à peu près ça te plaît ou si ça te plaît pas.
Comment il pourrait garder la motivation pendant 20 jours?
De lire Miracle Morning de Al Herold, qui permet vraiment de comprendre qu'il... Il y a une technique, une méthode qui permet de se dépasser et de demander à quelqu'un d'accompagner. Ça peut aider.
Ouais, créer une habitude.
Voilà, créer une habitude. Si une partie de tes auditeurs sont des solitaires ou qu'ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un, c'est vraiment se mettre une routine. C'est-à-dire, si je décide d'aller au sport et si je décide qu'il faut que ça soit tous les jours à 9h, ben, il faut vraiment y aller tous les jours à 9h. Pas dire, oh, aujourd'hui j'y vais à 9, demain j'y vais à 10. C'est vraiment garder cette routine si tu veux la garder dans le temps.
Ouais, ça c'est intéressant, ouais. D'avoir toujours la même heure à laquelle aller au sport et ne pas déroger à la règle. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor et qu'il est encore aujourd'hui? Ça peut être un sportif ou pas, évidemment.
Ouais, c'est Jérôme Cazerolle. Mon
mentor, non, s'il te plaît. Je m'y attendais pas. Ça. Non, on va.
Tu vas me dire. C'est la petite blague de fin, tu vois. T'as tes auditeurs, ils ont écouté pendant une heure. Blague de fin.
Ouais, voilà, ils sont récompensés.
En mentor, j'aurais plus. C'est pas vraiment des mentors dans le sport. Moi, je suis plus dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des gens comme Elon Musk ou David Laroche me motivent, on va dire. C'est vraiment eux mes mentors. Et après, le dernier mentor. C'est tous les gens que je... Enfin, les derniers mentors, c'est au pluriel, c'est vraiment toutes les personnes que je rencontre. Toutes les personnes que je rencontre ont quelque chose à m'apprendre, en fait. Et dans tous les domaines confondus. Donc, ouais, c'est ça, en fait. C'est peut-être pas trop écouter avec les oreilles, mais c'est plus écouter avec le cœur ce que les gens, ils ont à nous dire. Ils ont sûrement des beaux messages à nous faire passer. Que ça soit beau ou pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais parfois, ça fait du bien.
Super. Et enfin, la dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement que tu aimerais recommander aujourd'hui sur le podcast?
Ouais, c'est Conversations avec Dieu de Donald Neil Walsh. C'est, je pense, que le livre qui m'a le plus flyé. Mais en soi, ça donne une compréhension de quasi tout et qui est hyper importante. Donc c'est un peu le nom, ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment c'est un auteur qui a écrit 4 tomes aujourd'hui sur la conversation avec Dieu. Mais c'est vraiment un livre très enrichissant au niveau personnel et ouverture d'esprit à fond. Et ce livre, il date de 1999, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un vieux livre et il est encore best-seller aujourd'hui.
Je ne l'ai pas lu, mais on va peut-être rassurer tout le monde, ça ne parle pas de religion. Hein.
Non, ça ne parle pas de religion. En fait, c'est un auteur qui aurait eu la capacité de se connecter avec son moi supérieur et donc tout ce qu'il écrit dans le livre viendrait d'une entité supérieure à la Terre. Et comme c'est écrit, c'est vraiment un discours, un dialogue entre deux personnes.
Très bien, bah, je me noterai ça dans ma liste de lecture, ce qui ne me semble pas l'avoir écrit. Si les gens sont intéressés par le nom de l'auteur, par le nom du livre « Conversation avec Dieu », mais je laisserai de toute façon dans les notes de l'épisode le titre avec le nom de l'auteur pour ceux qui ont envie d'aller rechercher. Il n'y aura pas nécessairement le lien Amazon. Avant, je le mettais, maintenant, je ne le mets plus. Parce que je pense que les gens, s'ils ont vraiment envie d'aller voir le livre, ils peuvent le taper tout seul sur Amazon ou sur Google. Je te remercie d'avoir partagé toutes ces informations, d'avoir partagé ton expérience personnelle. Est-ce que si on veut te suivre ou te contacter, te poser des questions ou tout simplement te dire merci par rapport à ce témoignage, où c'est que les gens pourraient le faire par exemple?
Bah, il y aura déjà dans tes propres commentaires ou si tu as, comme tu dois communiquer avec ta communauté, donc ils peuvent te poser des questions. Après, j'ai un Facebook que si tu veux le mettre, il n'y aura pas de problème, c'est Corentin Peigne, et un Instagram. Mon site internet ne correspond, enfin pour l'instant n'est pas fini et ne correspond pas au domaine de la Buscu, donc ils le verront plus sur mon profil quand je commencerai à le publier.
Ok, la même chose, je laisserai les liens cette fois de ton Facebook, de ton Instagram, de ce que tu m'as recommandé, je laisserai tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir à quoi ressemble Corentin, un petit peu ce qu'il partage comme contenu et également si vous voulez rentrer en contact avec lui. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou un message à faire passer avant qu'on termine cet épisode ?
Bah déjà, merci à toi, Jérôme, de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Enfin, c'est vraiment, je me sens vraiment privilégié, donc c'est déjà un grand merci. Puis la dernière chose qu'on pourrait dire à tes auditeurs, c'est déjà d'avoir eu le courage d'écouter pendant plus d'une heure. C'est déjà félicitations, c'est que t'as un bon mindset. Et fonce, vas-y, n'aie pas peur. Aie des peurs, mais dépasse-les. Et je pense que c'est la meilleure des choses, même si on le fait pas toujours, hein, moi le premier. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Faites des erreurs, échouez, recommencez. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à vraiment progresser.
Merci à toi d'être passé sur le podcast. Je te dis à bientôt.
Merci Jérôme, à bientôt.
Merci et puis surtout félicitations d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci encore à Corentin d'avoir partagé son parcours. Je pense que c'est quelque chose dont on peut lui en être reconnaissant. On a quand même abordé des sujets qui sont assez difficiles, qui sont des choses très personnelles. Donc je vous encourage à peut-être lui donner votre petit mot d'encouragement pour la suite. Si vous voulez lui envoyer un petit message, n'hésitez surtout pas à le faire. Je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Il y a également une autre façon de montrer votre satisfaction quant à l'épisode. Tout simplement, vous pouvez le partager à une personne que vous connaissez, une personne qui pourrait être sensible à cet épisode. Juste envoyez-lui par message, le podcast fonctionne beaucoup par bouche à oreille, donc n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce. Et puis si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire, je vous invite comme d'habitude à laisser une évaluation de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui permet de faire remonter le podcast dans les recherches, dans les rankings. Alors pour laisser une évaluation et également un commentaire, il faut avoir un iPhone, puisque c'est l'application d'Apple. Si vous n'êtes pas sur iPhone ou vous connaissez quelqu'un qui en a un, juste empruntez-lui 5 petites secondes pour laisser l'évaluation et le commentaire. Et si c'est pas le cas et que vous voulez quand même contribuer à laisser une note, vous pouvez essayer de voir ça sur l'application de votre choix. Dès qu'il y a un nouveau commentaire sur l'application, moi je le vois, je reçois une notification évidemment, donc je suis à chaque fois très content de recevoir de nouveaux avis. Qui sont tous positifs, donc moi ça m'encourage, ça me fait plaisir, en plus d'aider le podcast à se faire connaître. J'ai de très bons invités qui vont arriver pour la suite des épisodes, et si tous ensemble vous m'aidez un petit peu en laissant un avis, ça ne pourra faire que grossir l'émission biomécanique. Et enfin, dernier petit appel à l'action, allez faire un tour dans les notes de l'épisode sur le lien biomecaniquepodcast.com/lettres. C'est pour vous inscrire à la lettre biomécanique. Cliquez sur le lien, allez lire ce qu'il y a écrit sur la page. J'en dirai pas plus, j'en ai déjà assez parlé en début d'épisode. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment en compagnie du podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Quant à moi, je vous dis bonne soirée, bonne journée. À très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye.